en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Faut-il faire confiance aux historiens ? C'est le thème de travail de l'Académie des sciences morales et politiques en cette année 2005, une année placée sous la présidence de M. Jean Tullard, l'historien Jean Tullard, qui invite chaque lundi en séance publique soit un membre de l'Institut, soit une personnalité extérieure pour traiter de ce thème. Faut-il faire confiance aux historiens ? Et en l'occurrence, le lundi 14 mars, c'est M. Jean Pia, le comédien Jean Pia, qui était invité à s'exprimer devant l'Académie des sciences morales et politiques en séance publique au palais de l'Institut de France Quai-Conti à Paris. Séance publique à 15h. Nous écoutons tout de suite Jean-Pierre sur le thème de Sacha Guitry et l'histoire.
Messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux, après vous avoir exposé il n'y a guère l'émission de l'acteur, ses défis, ses gloires, de permettre à Sacha Guitry de rejoindre votre Académie en cet après-midi de mars 2005, où il aurait 120 ans depuis le 21 février, afin qu'il puisse vous conter l'histoire à sa manière, lui qui fut cancre notoire, obsédé dès son plus jeune âge par la géographie. On me disait, écrit-il, que je ne savais pas mes départements, alors que tel de mes camarades savait les siens. C'étaient pourtant les mêmes, écrit-il dans ses mémoires. Sacha était né pour le bonheur. Il en avait reçu le don à l'exemple de Madame de Maintenon, enseignant les demoiselles de Saint-Cyr. « Souriez, mesdemoiselles, souriez, si vous voulez avoir plus tard les rides bien placées. » Sacha va donc s'efforcer constamment de favoriser le sourire de ses contemporains, mais l'histoire se prête-t-elle à cette volonté ? Quand un homme a l'honneur d'être un délassement pour ses contemporains, dit-il, il doit y consacrer le plus clair de sa vie. Mais l'histoire est-elle source de délassement ? Il faut être heureux, poursuit encore Sacha, car lorsqu'on se met à être heureux, l'existence devient une chose tout à fait inouïe. Sacha Guitry choisira donc dans l'histoire les événements qui lui permettront de faire le bonheur de tous, de rendre heureux, en somme de plaire, pour faire plaisir. Et ces événements appartiendront à une France qu'il aime. L'amour de la France illumine sa vie, écrit Michel Rocard. Les événements appartiendront aussi à lui-même, qu'il ne déteste pas, on le sait, et aux femmes qu'il a adorées. Ces récits historiques ne relèveront jamais de l'histoire telle qu'enseignée dans les écoles, mais bien plutôt d'une interprétation toute personnelle où sa vie privée, le théâtre et l'amour auront la plus grande part. Émeute, révolution, guerre marquent l'histoire des 50 premières années du XXe siècle. Des millions de morts, la transformation d'une Russie tsariste où Sacha est né à Saint-Pétersbourg, en Union des républiques socialistes soviétiques, dont les idées vont s'étendre sur le monde, la montée des fascismes, de l'antisémitisme, qui entraîne des bouleversements où quelques hommes se croient investis de tous les pouvoirs et vont faire que d'autres se retrouveront devant des murs, des grilles ou des chambres à gaz. L'espérance d'un bonheur pour demain que la science devait apporter laissant place à des réalités atroces qui rendent le monde. Sacha devient donc l'acteur principal de l'épopée napoléonienne. L'historien proteste, le public s'amuse. Ne sachant plus très bien d'ailleurs si la fameuse réplique à un gouvernement qu'on soutient est un gouvernement qui tombe, appartient à Talleyrand ou à Sacha. S'adressant dans ce même diable boiteux à ses quatre valets qu'il a entendu se livrer à quelques insolences à son égard, Talleyrand, à sa première entrée en scène, leur dit « Messieurs, j'ai pris la détermination de vous augmenter à la fin du mois. » Étonnement ravi des laquais, « Oui, vous êtes quatre, vous serez cinq désormais. » Talleyrand a-t-il réellement prononcé cette phrase ? Il est permis d'en douter, d'autant plus justifié qu'il a choisi ses quatre laquais pour leur ressemblance avec l'un, le duc d'Orléans, l'autre, le comte d'Artois, le troisième, le comte de Provence, et le quatrième, l'empereur Napoléon lui-même. La vérité historique n'a donc évidemment rien à voir avec ce choix, ni avec la réplique d'entrée de Talleyrand Guitry. Et pourtant, Sacha s'interroge. « Suis-je un historien ?»« Oui, dit-il, mais à la façon d'un peintre. Je suis un historien comme le fut Louis David quand il composa son magnifique tableau intitulé « Le Sacre de Napoléon » où l'on voit trônant au centre Madame Laetitia, alors que notoirement la mère de l'empereur était à Rome ce jour-là. Son absence est un fait et c'est peut-être même un fait historique. Ne désapprouvait-elle pas en effet le couronnement de Joséphine par son fils ? Quant à moi, dit encore Sacha, je l'ignore. Et David, informé, a très bien pu se dire, la question n'est pas là parce que ce fait n'est pas le sujet du tableau. Je ne peins pas l'absence ou la présence de Madame Mère au couronnement de l'empereur et je ne voudrais précisément pas que cette absence fût un sujet de distraction. Sa présence est normale, elle est logique et je ne tiens pas à passer dans 200 ans ou dans 100 ans pour un peintre distrait. De même, Sacha, dans « Si Versailles m'était compté », évoque l'histoire du château de Versailles, bien sûr, et de la France, à sa manière qui n'est pas celle d'un auteur distrait, surtout quand il parle de deux de ses erreurs. Erreurs volontaires, bien entendu. « Nous tournions ce jour-là, dit Sacha, une scène entre le roi et Madame de Montespan. Scène au cours de laquelle je disais à Madame de Montespan, « Je vous garde à Versailles et vous exile dans les combles. » La scène terminée, Sacha va fumer une de ses nombreuses cigarettes dans la cour de marbre quand l'aimable conservateur en chef de Versailles, Gérald van der Kemp, le rejoint et, avec une bonne grâce qui lui était coutumière, se fait un devoir d'aviser Sacha que ce n'est pas dans les combles, mais bien au rez-de-chaussée de l'aile droite du château que Louis XIV avait exilé sa maîtresse. Et à l'entendre parler, Sacha se demandait si cette erreur était de nature à compromettre le succès de l'ouvrage. Et il a cru bon de répondre aussitôt « Cher van der Kemp, le roi Louis XIV n'avait-il pas assez d'indépendance et d'autorité pour revenir le lendemain sur une décision qu'il avait prise la veille ?» Et Sacha conclut « J'aurais pu aussi lui dire que ma phrase, telle qu'elle, avait sa raison d'être. Car faire dire au roi « Je vous garde à Versailles et vous exile dans les combles », c'est une bien meilleure réplique que de lui faire articuler « Je vous garde à Versailles et vous exile dans l'appartement qui se trouve au rez-de-chaussée de l'aile droite du château. » L'acteur que je suis ne peut qu'approuver l'auteur Sacha Guitry. S'appuyant en outre sur Paul-Louis Courier, citant Plutarque, prêt à faire gagner la bataille de Pharsale à Pompée, si ça devait arrondir sa phrase, Sacha va jusqu'à écrire « Toutes ces sottises qu'on appelle histoire ne peuvent valoir quelque chose qu'avec les ornements du goût. » Et il ose ajouter avec une effarante mauvaise foi « Il y a dans Versailles une erreur que personne n'a cru devoir me signaler encore. » Elle se trouve dans la dernière image du film et elle en a définitivement assuré le succès dans cette image. Sur le grand escalier majestueux, on peut voir Louis XIV et Georges Clémenceau. Or, précise Sacha, si ma mémoire est bonne, ils ne se sont pourtant jamais rencontrés. En d'autres circonstances, il s'agace, découvrez rien qui soit à l'honneur de la France, inventez quelque chose, vous n'aurez pas menti. Sacha n'aimait pas qu'on admirât modérément la France. Voici d'ailleurs à ce sujet un dialogue singulier imaginé par Sacha entre celui qui questionne le passé et celui qui questionne l'avenir, et où le passé, selon la volonté de Sacha, se révèle très présent. Celui qui questionne l'avenir. Qu'allons-nous devenir ? Nous sommes dans le malheur et nous voilà plus bas que terre. Celui qui questionne le passé ? On peut se prosterner dans la poussière quand on a commis une faute, mais il n'est pas besoin d'y rester, m'a conseillé Chateaubriand. Celui qui questionne l'avenir, je vous envie de n'être pas désespéré. Celui qui questionne le passé, le désespoir est la plus grande de nos erreurs, me disait récemment Vauvenargues. Celui qui questionne l'avenir, n'empêche qu'il court actuellement un bruit très alarmant et de fort bonne source. On m'a certifié que le passé, je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger, m'a dit à ce sujet Pascal. L'avenir, Dieu vous entendre, pauvre France, le passé, il y a longtemps que la France serait la maîtresse du monde si la division de tous ses enfants ne l'avait trop souvent exposée aux jalouses faveurs de ses ennemis, me déclarait à l'instant le roi Louis XIV. Laissons donc Sacha, pour ne pas risquer d'être égorgé, réécrire l'histoire à sa manière, d'autant qu'il l'écrit sans jamais se prendre au sérieux, même si certains de ses rappels pourraient inspirer nos générations. Remontons avec lui, si vous le voulez bien, les Champs-Élysées de 1938 à 1617, où il s'accuse cette fois, et en vers, d'une grave erreur historique. vers légers, vers de bohème, quand ils les aiment. Ce poème s'appelle « Mea culpa ». Faire un film historique en 200 petits actes. Rechercher certains faits curieux, peu connus, et pour cette raison, les vouloir tous exacts. Courir après des documents et se jurer de ne commettre aucune erreur involontaire. J'entends par là qu'on a le droit d'imaginer un tas d'événements dont on n'a pas trouvé la preuve du contraire. Vérifier des noms, contrôler des dates, n'avoir qu'un rêve, divertir à la façon d'un acrobate en se promettant bien de ne jamais mentir. Constant souci, car faire des acrobaties, c'est perdre en vérité le centre de sa gravité. Mais pourtant, ce n'est pas mentir. Or, donc, moi, qui m'étais promis de ne commettre aucune erreur, voyez dans quel état je me suis mis. Mon nouveau film, horreur, horreur, commence justement par une grosse erreur. Oui, c'est à ne pas croire, mais c'est par une erreur, cependant, qu'il débute. Je viens de m'en apercevoir à l'ultime minute. Devant le châtiment, je ne recule pas, mea culpa, mea culpa. Ça commence par une classe. Et la scène se passe en septembre, un jeudi. Et tout haut, je le dis, une classe en septembre. Et pourtant, je fus sobre. Oui, j'aurais dû me souvenir, j'en ai fait tant et tant, que les écoles sont fermées jusqu'en octobre. Hélas, pourtant, la faute est faite, irréparable, et je l'avoue. Et puis, jeudi. Classe, un jeudi, me direz-vous. Ça, le jeudi, c'est différent. Oui, pour septembre, je m'accuse. Mais je prétends que pour jeudi, j'ai mon excuse. Pour mes petits copains, c'était jour de vacances, mais il eût été surprenant que je m'en fusse souvenu, car ce jour-là, dans mon enfance, j'étais toujours en retenue. Sacha, de réforme scolaire en réforme scolaire, la postérité vous a réhabilité et effacé l'erreur. Les écoliers rentrent maintenant en septembre et ils ont classe le jeudi. Et s'ils avaient la curiosité de lire vos œuvres historiques, on peut toujours rêver, ils y verraient peut-être une préfiguration des bandes dessinées. Interprète de François Ier dans Les Perles de la Couronne, de Louis XI dans Paris m'était compté, de Louis XIV dans Versailles, de Louis XV dans Le Bien-aimé, Sacha donne vie à Talleyrand, à Pasteur, à Napoléon Ier dans Désiré Clary ou à Napoléon III, à Franz Hals, à La Fontaine, à Beaumarchais, à Mozart, faisant ainsi œuvre d'historien sans cesser de rester lui-même avec son goût des mots et son exquise qualité d'écriture. Il aime les rencontres insolites qui n'ont pas eu lieu mais qui auraient pu avoir lieu et où la réalité, le théâtre et l'amour, l'esprit, la fantaisie sont les éléments essentiels. Mêlés, inséparables, confondus, comme ils l'ont toujours été dans sa vie personnelle. S'il écrit un Mozart, c'est pour parler sous le masque de Grimm à une Yvonne Printemps dont les infidélités le tourmentent. « Vous aimez, dit Grimm à Mozart, vous aimez mon enfant comme on aime à votre âge. Vous êtes comme le papillon et vous allez de l'un à l'autre sans penser à mal, je veux bien le croire. » Yvonne comprend. Et il ajoute pour Yvonne seule, car Sacha souffre, et si je te disais qu'un homme est malheureux précisément parce qu'on t'aime, oui, malheureux, très malheureux, s'il te disait enfin que d'avance, il s'avoue vaincu par ta jeunesse, s'il te disait que la tendresse qu'on te voue, il la partage et la comprend, en voudrais-tu savoir encore davantage? Non, n'est-ce pas certainement? Deux mots en disent plus, Mozart ou Yvonne, qu'un long poème à toi qui dit si bien je t'aime avec deux notes seulement. Il est bien certain que Grimm n'a jamais eu cette conversation avec Mozart. Plus tard, Sacha se vengera d'Yvonne différemment dans « Elles et toi ». N'est pas cocu qui veut, et nous ne devons épouser que de très jolies femmes si nous voulons qu'un jour on nous en délivre. Si Sacha écrit « Franz Hals », pièce sur l'admiration, c'est pour obliger Pierre Frédé, dont il connaît la passion pour Yvonne, à exprimer sur scène et tous les soirs son admiration pour Franz Hals, rôle qu'il interprète lui-même. Là, l'histoire sert de règlement de compte. En 1640, un jeune peintre, Adrien van Ostade, Pierre Frédé, déclare à Annette, Yvonne Printemps, compagne de Franz Hals Guitry, « Quand un homme vous a donné par ses écrits, par sa peinture ou sa musique d'incomparable joie, c'est inouï ce qu'on lui doit. » Comprend qui veut, mais Yvonne comprend très bien. Ou bien encore, le même Frédé, « Si mes baisers parfois te paraissent plus tendres, si je sais t'aimer mieux, si je sais mieux te prendre un soir entre mes bras, ne me dis pas merci, c'est que j'ai vu sans doute un tableau merveilleux de ce grand homme-ci. » On peut se demander si, en attendant son entrée en scène, Sacha Franz Hals ne salive pas en coulisses en guettant les réactions de l'une et de l'autre. D'autant plus qu'un peu plus loin, Sacha ajuste encore le tir. Eh bien, ces êtres-là, ces hommes de génie, nous devons les bénir, nous devons les aimer, nous devons les servir, sans tolérer jamais que nul les calomnie. À la première lecture de cette pièce, j'aurais bien aimé voir les visages d'Yvonne Printemps et de Pierre Frédé que guettait sans aucun doute Sacha Guitry. Ça ne devait pas être triste. Dans Le Bien-aimé, Sacha fait parler Louis XV en vers. Et Là encore, ça ne relève pas non plus de la vérité historique, d'autant qu'il fait dire au roi, s'adressant à la Pompadour, « Souvenez-vous-en toujours, quand on est roi de France, il faut être heureux en amour. » Était-ce la pensée politique ou sociale essentielle de Louis XV envers ses sujets ? Là encore, il est permis d'en douter. Plus loin, le bien-aimé Louis XV rencontre une petite Louisette et lui fait une déclaration qu'on peut qualifier d'inattendue, toujours en regard de la vérité historique. « Je suis la gaieté même, dit le roi, et la joie en personne. Fermez la porte du salon. Au cadran de l'amour, voilà midi qui sonne. Je viens poser des jalons. J'ai l'estomac dans les talons. J'ai des projets plein la caboche et j'ai des cadeaux plein les poches. Bonbonnières, éventails, présents du Mikado. Les petits Mikado entretiennent, dit-on. » N'a pas osé dire l'amitié, pas plus Sacha que Louis XV, les points de suspension suffiront. Et le cinquième acte de ce même bien-aimé s'ouvre sur un salon à Versailles où se trouvent en scène la Pompadour, Voltaire et Fragonard. Ce Fragonard qui exécute le portrait de la favorite tandis que Voltaire déclame quelques vers de Tartuffe. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Louis XV paraît et dit alors « Voltaire et Fragonard, la France ». Le général de Gaulle n'aurait peut-être pas fait mieux. Et le bien-aimé explique « Voltaire et Fragonard, l'ironie et la grâce, vertu incessible et insaisissable, donc je dis bien la France. Voltaire, vous aurez de l'esprit jusqu'à la dernière heure. » Et Voltaire de répondre, selon Sacha, « Sire, je m'arrêterai de mourir s'il devenait un bon mot. » Et Sacha de conclure alors, « Dès lors, on peut se demander si Voltaire n'est pas mort dans un moment de distraction. » Rejoignant Musset, qui définit la fantaisie comme l'épreuve la plus périlleuse du talent, Sacha veut-il mettre en pratique la sentence de Mallarmé « Tout écrivain complet aboutit à un humoriste ». Peut-être. Disons qu'il se laisse aller à sa légèreté qui permet d'opposer la grâce à la mauvaise humeur. « Mes pièces, dit-il, sont des croquis, des esquisses, que la crainte de mentir m'empêche souvent de fignoler, de terminer. J'ai le goût des choses inachevées parce que rien ne finit jamais. » Et puis c'est adorable, une ébauche. C'est une chose qui vient de naître, qui viendra toujours de naître. C'est la genèse. La jeunesse, t'entendre que Salieri aurait tué Mozart, affirme que le bruit qui en a couru aurait été propulsé par Salieri lui-même. Vérité historique ? Certainement pas. Pièce à succès ? Chacun l'espère. Citons encore cette rencontre organisée par Sacha dans sa pièce Beaumarchais entre l'auteur du mariage de Figaro et Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée de Beaumont, chevalier d'Éon. La rencontre a eu lieu, c'est historiquement prouvé. On dit même que le chevalier ou la chevalière, enfin maintenant on sait que c'est un chevalier, mais enfin bref, on dit même que le chevalier ou la chevalière aurait été jusqu'à guider la main de Beaumarchais, à vrai dire experte, vers l'objet secret du désir afin de le ou de la mieux connaître. Vrai ou faux, Sacha s'occupe du dialogue. Beaumarchais, êtes-vous femme ? Déon, qu'en pensez-vous ? Beaumarchais, homme. Déon, homme ? Beaumarchais, non, j'ai fait homme. Et les deux hommes, dit Sacha, se regardent tels deux chats de race qui se défient. Beaumarchais, la tsarine vous recevait ? Déon, la nuit, de préférence. Beaumarchais, en qualité de lecteur ? Déon, non, de lectrice. Beaumarchais, avait-elle deviné que ? Déon, elle a fait semblant de ne s'apercevoir de rien. Elle était, Beaumarchais, très artiste, Déon, voilà. Quelques instants plus tard, le chevalier Déon proposera « Voulez-vous que je reste en homme pour souper avec vous ?» Beaumarchais, ça m'obligerait à me mettre en femme, il vaut mieux ne pas faire trop jaser. Une fois encore, la réalité de cette scène est sans doute très éloignée de la vérité historique. Jean Anouilh disait que toute œuvre créatrice est un monstrueux plagiat de la vie. Oubliant le monstrueux, reste la vie. Et Sacha, en quelques traits, en quelques répliques, a su donner vie à ses personnages pour le plaisir de l'esprit en restant fidèle à sa devise. Illusionniste né, vite, il m'est apparu qu'au mépris des coutumes et des conventions, j'avais pour seule mission de plaire à mes contemporains afin d'aider ceux qui m'écoutent à être le moins malheureux possible, à ne se résigner en quelque sorte qu'au bonheur. C'est là tout mon message. Comblé par le destin, je n'ai pas eu d'autres soucis. Il faut donc prendre ces œuvres dites historiques comme une approche divertissante et souvent réussie, si parfois inachevée. Et se rappeler que Sacha a écrit « Aucune de mes pièces ne me satisfait complètement ». Et quant à la situation que j'occupe, elle me surprend bien plus qu'elle ne comble mes vœux. On n'est pas plus modeste. Évoquons encore un instant ce Mozart, sur lequel Sacha Guitry, en historien un peu particulier, écrit « Je ne suis pas un chercheur de tare. L'habitude de mettre de côté les défauts d'un grand homme et de l'autre, ses qualités comme on met doit et avoir dans les comptes de banque, cette habitude me paraît déplorable. Un homme se présente à nous, que nous aimons pour son génie, nous devons le prendre tel qu'il est. L'idée de regretter qu'il soit bossu ou coléreux me semble puérile. Un ange est venu sur la terre. Oui, le 27 janvier 1756, un ange est venu sur la terre. Il naquit à Salzbourg, en Autriche, c'est un fait évident et personne ne songerait à contester ce fait. Et même, je comprends que les gens de Salzbourg en conçoivent une immense fierté. Et pourtant, ce n'est pas à Salzbourg seulement qu'il est né. L'expression « venir au monde » n'a jamais eu plus de sens que le jour où cet enfant est né, car le jour où Mozart est venu au monde, il est venu au monde entier. J'ai lu très récemment, là c'est moi qui parle, une relation historique très différente. Mozart, autrichien ou allemand, né à Salzbourg, capitale d'un petit territoire géré par les princes-évêques, qui avaient qualité de prince d'empire, car faisant partie du Saint-Empire germanique, il a fallu attendre 1803 pour que Salzbourg passe à l'Autriche. Or, Mozart est mort en 1791, donc on peut considérer que Mozart était allemand. Oserais-je affirmer ma préférence pour la carte d'identité que présente Sacha ? Même et surtout quand il décrit la mort de Mozart, à sa manière à lui, bien entendu. On connaît l'anecdote du requiem. Mozart était malade, un inconnu se présente chez lui pour lui commander un requiem. Pour qui ce requiem, monsieur ? Permettez-moi de ne pas vous répondre. Et Sacha conclut, c'est en le fredonnant que Mozart rendit l'âme. Vision poétique, elle n'a rien à voir avec la réalité. Le corps de cet être divin, dit encore Sacha, fut déposé peut-être ici. Robert, Gounod, César Franck et Louis Pasteur, la France continue. Ne pourrait-on pas proposer à la curiosité des écoliers cette fresque, en la prolongeant de décennie en décennie jusqu'à nos jours, 2005, l'Europe se constitue, la France continue. Et puisque nous venons de rappeler la fin de l'épopée napoléonienne, remontons une seconde encore les Champs-Élysées où, selon Sacha, Napoléon rencontre Bonaparte et lui dit « Si c'était à refaire, recommencerais-tu ? Oh, pas pour un empire, répond alors Bonaparte. Un bon mot est une chose sacrée, on n'a pas le droit de le garder pour soi, disait Sacha, il l'a prouvé à de maintes reprises. Accordez-moi le privilège, cher Jean Tullard, de vous laisser le dernier à propos de lui. Alexandre Dumas avait ouvert la voie pour le roman. Tali et Mel Pomen l'emporteront toujours sur Clio.
C'était le comédien Jean Piat s'exprimant devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 14 mars dernier. Sacha Guitry et l'histoire, tel était le titre de cette communication de Jean Piat, une communication prononcée dans le cadre de l'année de travail de l'Académie des sciences morales et politiques. Une année 2005 placée sous ce thème défini par le président de l'année, Jean Tullard. Faut-il faire confiance aux historiens ? La suite de votre programme dans un instant.